Bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente la saison 2 avec un épisode spécial, c'est l'épisode 15, je suis célibataire politique. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines, dorénavant. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe, je me définis comme une femme, cisgenre, blanche, pansexuelle, célibataire, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Dans Sologamy, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, je lance la saison 2 de Sologamy avec un épisode doudou, tout doux. Je vais te présenter le célibat politique. Je sais, ça n'a pas l'air doux comme ça. J'aurais dû le faire avant parce que c'est en me saisissant de ce concept de célibat politique que j'ai eu l'idée précisément de lancer ce podcast Sologamy en 2020. Je ne reçois aucune invitée aujourd'hui, mais je te partage toutes mes réflexions autour du célibat, du féminisme et de la politique. Cet épisode a été initialement enregistré le 19 février 2020, avant la pandémie, avant le lancement de ce podcast, sur un ferry finlandais. Je l'ai déjà publié dans mon autre podcast Marie sans filtre l'année dernière. C'est un épisode très important pour moi, qui pose les fondations de la sologamy telle que je l'expérimente aujourd'hui. Et donc, c'est essentiel de le sortir. J'aurais dû le sortir au début. Je le sors pour inaugurer cette saison 2. Je suis pas d'accord aujourd'hui, en novembre 2021, avec tout ce que je dis dans cet épisode donc qui a été enregistré il y a plus d'un an et demi, avec toutes ces réflexions. Tu verras qu'à la fin de cet enregistrement, je pars un peu dans tous les sens. Je dis des trucs sur la misandrie que je ne pense plus aujourd'hui. À toi de faire le tri. Mais je sais que cet épisode est intéressant et important pour nos réflexions célibataires et féministes. Alors, je te souhaite une très bonne écoute. Que la saison 2 de Sologamy commence. Nous sommes mercredi 19 février 2020. Je suis allongée dans le lit de ma cabine sur un ferry finlandais qui m'emmène d'Allemagne à Helsinki en Finlande. Je suis partie du port de Lübeck ce matin en Allemagne et nous arrivons à Helsinki en Finlande demain après-midi. Puisque en fait je voyage sans avion jusqu'en Laponie, dans le nord de la Finlande. Je vais passer une semaine chez ma sœur qui étudie en Erasmus à Rovaniemi en Laponie. À côté du village du Père Noël, quoi. Et voilà, j'ai vraiment hâte, mais en même temps, moi, ce que je préfère dans le voyage, c'est le mouvement, en fait. Donc là, je vis ma meilleure vie, en fait. Je suis sur le ferry et je retrouve des sensations de mon tour du globe en cargo qui sont folles. Je sais pas, ça fait 6 heures qu'on est parti. Ça fait 6 heures que j'ai pas internet, que j'ai pas de réseau. Et je sais pas, j'ai déjà mon esprit qui s'ouvre. J'ai déjà des choses qui m'apparaissent simplissimes. J'ai déjà des idées, des projets à faire, des épisodes de podcast à faire. Enfin, j'ai déjà des idées. Alors que ça fait que 6 heures, quoi. Mais juste le sentiment d'être dans un espace neutre que je ne connais pas, avec des gens qui me sont étrangers et qui sont a fortiori bienveillants. C'est pas comme sur le cargo où j'étais entourée de 25 mecs plus ou moins sexistes. Ici, je suis sur un cargo en tant que passagère avec d'autres passagers allemands et finlandais qui ne me décrochent pas un mot, qui me sourient, mais que si je leur souris. Donc voilà, vraiment distant, froid et en même temps bienveillant. C'est-à-dire, si j'ai un problème, je vais voir n'importe qui, tout le monde va m'aider.
Et donc, c'est tellement agréable. C'est vraiment le meilleur sensation. C'est-à-dire, je peux rester dans ma cabine autant de temps que je veux. Je peux faire strictement ce que j'ai envie de faire. Je peux ne parler à personne ou parler à qui je veux. Enfin, je sais pas, j'ai un sentiment de liberté. Et par rapport au cargo, ce qui est bien, c'est que... les conditions sont quand même meilleures, c'est-à-dire que bah, déjà, je viens de le dire, l'entourage est différent, il y a des femmes. Je ne reste qu'une journée et demie dessus sur ce ferry, donc ça n'a rien à voir au niveau de la durée. Et je fais ce que je veux, c'est-à-dire il n'y a pas d'heure de repas imposée, il n'y a pas de... d'exercice de sécurité, enfin je sais pas. Il y a un sauna, je vais aller au sauna tout à l'heure, gratuit. Voilà, je vois vraiment tous les avantages du voyage en bateau, alors que quand je suis montée ce matin, je me suis dit, oh non, franchement, j'aime pas la mer, c'est pas mon truc. À chaque fois, je me dis ça parce que ça a quelque chose quand même de claustrophobe, enfin. Être enfermée, c'est pas mon délire. Là, je suis dans une cabine. En fait, je suis surtout contente parce que c'était une cabine qui, sur le papier, était présentée comme une cabine à partager à quatre, donc avec trois autres femmes. Et en fait, on n'est pas beaucoup de passagers. Et je viens de comprendre pourquoi on n'est pas beaucoup de passagers parce qu'en fait, bah, les gens ne prennent plus le ferry, quoi. Le ferry, il est construit pour, je sais pas, avoir. Peut-être pas 1000 passagers, mais plusieurs centaines. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cabines. Il y a un grand restaurant. Enfin, vraiment, on voit qu'il y a l'espace. Et là, on doit être 20. Peut-être on est 20 ou 30, une trentaine de passagers maximum, maximum. Donc c'est assez triste. Après, le ferry, il transporte surtout des marchandises d'Allemagne en Finlande. Mais c'est vrai que... Du coup, je suis rentrée dans ma cabine et il y avait un seul lit de fait. Et là, je me suis dit, en fait, je vais vivre ma meilleure vie. Je vais être toute seule dans ma cabine. Et du coup, je suis toute seule dans ma cabine. Alors qu'il y a effectivement trois lits en tout. Et tranquille. Il y a même la télé. Moi, je ne l'ai pas allumée, mais il y a une télécommande. Donc, ça veut dire qu'elle peut s'allumer. Je sais pas ce qui passe. Mais par contre, il n'y a pas de hublot. Ça c'est sûr, j'ai pris le moins cher, donc il n'y a pas de fenêtre, donc je peux pas vraiment rester longtemps dans ma cabine, sinon je deviens complètement dingue. Et donc voilà, l'enfermement c'est pas mon truc. Et donc au début je me suis dit, oh non, fais chier. Et en fait je kiffe. Enfin moi c'est toujours tout rien. C'est pas que je suis faite pour la mer, c'est juste que je trouve que ça apporte quelque chose. La mer c'est un des derniers espaces où on n'a vraiment pas de réseau, vraiment pas de wifi. Et en l'occurrence, il faut payer pour avoir le wifi ici, comme sur le cargo. Et je trouve que ça, on s'extrait du temps en fait. On s'extrait du quotidien, on s'extrait du stress. On regarde la mer, il n'y a rien à voir. Enfin, peut-être les falaises au loin, mais c'est d'un paisible en fait. C'est vraiment paisible. Et je trouve que ça ouvre tous les chakras et. Enfin, pas les chakras, mais ça ouvre toutes les possibilités. Je sais pas, quand je suis en mer, je me dis, tout est possible. Et je me dis, je vis ma meilleure vie. En fait, c'est là où je dois être, c'est là où je suis maintenant. Et je suis épuisée. J'ai dormi 6 heures la nuit dernière. Je me suis réveillée à 7 heures du match, épuisée. J'ai fait une pauvre sieste à midi. Il n'y a pas spécialement de raison pour que je me sente hyper bien. Mais juste, moi, quand je voyage, mais je suis au septième ciel. Après, c'est le premier jour. Et le premier jour, c'est toujours l'euphorie. Ça, je le sais de mon expérience sur les cargos. Les premiers jours, j'étais toujours euphorique. Oh, c'est trop bien. Et puis après, je rentre un peu dans une dépression de qu'est-ce que je fous ici? Qui va aussi m'arriver, même si je reste pas sur le ferry, parce que je vais arriver en Laponie, je vais faire qu'est-ce que je fous ici? Et puis après, il y a le corps s'habitue, l'esprit s'habitue, puis ça se transforme en autre chose. Enfin, je veux dire, les cargos, c'était quand même spécial de passer 4 mois en mer. Mais bon, là, je passe 15 jours et demi. Et en fait, je voulais faire un épisode qui s'appelle Je suis célibataire politique. Parce qu'en fait, ça m'est apparu d'une limpidité. Et tout à l'heure, j'étais au dernier étage du ferry en train de regarder, en train de regarder la mer et en même temps de lire un roman de Siri Husvest qui s'appelle Un été sans les hommes. Attends, mais je vérifie le nom de l'autrice parce que j'ai pas envie de te dire n'importe quoi. Oui, Siri Husvest. Husvet, j'arrive pas à prononcer son nom. Et Un été sans les hommes, rien à voir. Enfin, si, ça a à voir avec le célibat politique, mais je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Là, je suis toute seule sur le ferry. Je vis ma meilleure vie. Autour de moi, je vois des couples ou des voyageurs solitaires. Enfin, il n'y a pas de jugement. Et à aucun moment, je me dis, ah, j'aimerais bien que Bidule soit avec moi, ou j'aimerais bien être à leur place, en couple. Ou même, j'aimerais bien être à la place de ce voyageur solitaire. Non, je me dis juste, c'est là où je dois être, je me sens hyper bien. Je vais retrouver ma sœur que j'aime. Dans ma vie, j'ai des gens que j'aime, j'ai des gens qui m'aiment. Et en fait, il n'y a rien d'autre qui compte, et je n'échangerai ma place pour rien au monde. Et surtout, je me projette dans rien d'autre que ça. En fait, moi, je me vois passer ma vie à voyager seule, à écrire. Enfin, voilà, j'ai pas besoin d'être dans la nature. Là, juste d'être sur la mer, j'ai l'impression d'être dans la nature, quoi. Et j'ai besoin de rien d'autre. Et je me suis dit, mais tu vas peut-être me dire que je divague, hein, que je délire, parce qu'un jour je vais te dire qu'il me faut absolument que je trouve un mec, et le lendemain je vais te dire ce que je sors aujourd'hui là, que je vais être célibataire politique. Mais j'ai l'impression que je passe ma vie à chercher un truc dont j'ai pas envie, en fait. Et je vais reparler de la dessinatrice suédoise, de l'autrice suédoise et féministe qui s'appelle Liv Strömquist, donc qui a écrit des BD très connues, Les Sentiments du Prince Charles et plus récemment La Rose la plus rouge s'épanouit, dont je parle souvent. Mais dans le premier tome, il y a un truc qui m'a tellement frappée, c'est qu'elle parle de l'héroïne de la série Sex and the City qui s'appelle Carrie, ou comme ça, qui pendant toute la série cherche, enfin pendant une partie de la série, j'ai pas vu la série, il faut que je la regarde, qui cherche à se mettre en couple avec un mec totalement indisponible, enfin comment dire, hors de portée, quoi. Un mec qui ne veut pas d'elle, qui la traite comme de la merde et qui n'a clairement pas envie de se caser et qui est pas disponible émotionnellement. Et moi je me suis dit, mais moi je prends que des mecs, je choisis que des mecs, je jette mon dévolu sur des mecs qui sont pas disponibles émotionnellement, et à mesure que je me rends compte qu'ils sont de moins en moins disponible émotionnellement, c'est-à-dire qu'ils commencent à me ghoster, et bah je m'accroche encore plus. En fait, c'est comme si, et elle le dit à un moment, Liv Strömquist, en parlant de Carrie, elle dit, mais en fait les femmes qui s'attachent à des hommes disponibles émotionnellement, en fait c'est inconsciemment qu'elles veulent rester seules, quoi. C'est-à-dire je vise des mecs que je saurais que je ne peux pas avoir, parce qu'en fait j'ai pas envie d'être en couple. Et en fait, quand je dis ça, je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Et même, je te le dis, hein, je le dis à tout le monde, j'ai aucune envie d'être en couple. C'est vraiment un truc. Le couple hétérosexuel, ça ne me donne pas du tout envie. Moi, je suis féministe radicale. Et en fait, ça ne m'a jamais donné envie. C'est même pas un truc de... depuis que je suis féministe, je me suis rendu compte des inégalités. Du coup, j'ai pas envie d'être en couple. C'est juste, dans ma chair, je sens que moi, ma valeur numéro une dans ma vie, c'est la liberté, et que si je suis en couple hétérosexuel, même si c'est un couple libre, etc., etc., je n'aurai pas, jamais la liberté que j'ai en étant seule. Jamais. Même si le mec me dit, tu fais ce que tu veux, même si le mec est ouvert, machin, je n'aurai jamais cette liberté, parce que j'aurai toujours un fil à la patte, même si je crois le contraire. Être en couple, c'est jamais la même chose qu'être célibataire, quelle que soit la forme du couple. Et donc je me suis jamais projetée en couple. Quand j'étais petite, je me disais jamais oh, j'ai hâte de rencontrer l'amour de ma vie et de faire des enfants et d'avoir une grande maison et de vivre heureuse jusqu'à la fin de mes jours. Jamais. Et quand j'ai commencé à voyager seule, je me suis dit, mais c'est, enfin, même avant ça, quand j'ai pris un appart seule, enfin, pour moi il me semble évident que j'allais prendre un appart seule, que, enfin, c'était même pas question de vivre en couple, mais même de vivre en coloc, ça me paraissait hors de question. Enfin, je rêvais juste de vivre seule. Et puis après, quand j'ai commencé à voyager seule, j'ai trouvé ça mais tellement incroyable. Et je me suis dit, mais punaise, toutes ces vacances, tous ces voyages, je me suis fait chier. Où je me suis fait chier avec des gens avec qui je me prenais la tête, où j'étais pas à l'aise, où on devait faire des compromis, où j'étais pas du tout à l'écoute de mes envies, de mes besoins. Et je parle de vacances avec mes parents, avec des amis, avec qui que ce soit. Et en fait, la chose, parce que je savais que j'aimais voyager, mais la chose la plus simple, c'était juste part toute seule. Et je ferai un épisode sur ça, enfin, j'ai un épisode sur ça, sur le voyage seul. Mais la première fois que je suis partie seule en voyage, j'étais en Russie et je me suis dit, ben en fait, j'ai envie à la fin de l'année, mon année d'Erasmus en Russie, j'ai envie de partir seule en Crimée. Enfin, pas seule, mais j'ai envie de faire une semaine de vacances en Crimée parce que à ce moment-là, la Russie avait annexé la Crimée, donc il y avait des vols pas chers pour aller en Crimée depuis Moscou et que c'est le soleil, que j'avais pas vu le soleil depuis 6 mois. Et en fait, personne voulait venir avec moi en Crimée, de mes amis Erasmus. Du coup, je me suis dit, bah, en fait, je vais y aller toute seule, quoi. Enfin, sur le coup, je me suis dit, bah, je vais me faire chier, ça va être compliqué. Et puis, je suis partie en Crimée et ça a été, mais la révélation. Enfin, j'ai un souvenir de ce voyage. Alors, il y avait des problèmes, des défauts. Enfin, voilà, premier voyage seul en plus en Crimée, où personne parle anglais, où fallait parler russe tout le temps. C'était très très galère comme voyage et c'était incroyable. Mais voilà, faut écouter l'épisode qui s'appelle Je voyage seul pour que je te raconte. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, voilà, maintenant c'est juste évident que je voyage seul, que je vis seul, que je travaille seul et avec ses défauts. C'est-à-dire, moi, vivre seule, ça n'a de sens que s'il y a une communauté autour. Par exemple, vivre seule à Paris, je trouve que ça n'a aucun sens. Parce que dans mon immeuble, ça fait 3 ans que j'habite là. Je connais peut-être deux personnes, Shirley et Sabrina, mais j'oublie tout le temps leurs prénoms, je les vois presque jamais. On boit jamais de coups ensemble, on s'invite jamais. C'est juste, on s'est parlé, on s'est filé des coups de main. On s'aime bien, mais enfin, je connais presque personne dans mon immeuble, et puis quotidiennement, je ne parle à personne dans mon immeuble. Et si j'ai un problème, je ne sais même pas trop où elles habitent exactement, ces deux meufs, et les gens de mon palier, je les connais même pas, quoi. Ils sont venus me voir de temps en temps parce que je faisais trop de bruit, mais c'est tout, quoi. Il n'y a jamais eu de présentation, il n'y a jamais eu d'échange, et moi, c'est juste pas possible, en fait, parce que. C'est même pas une... Enfin, c'est une question déjà de se sentir seule, c'est-à-dire vivre seule, bah, c'est connu, c'est pas bon pour la santé. Même si je sors tous les jours, que je vais à mon coworking, que je vois mes potes, ma famille et tout, c'est pas bon en fait de vivre dans un environnement. Enfin, il y a des personnes à qui ça convient très bien, mais moi je trouve que c'est étouffant au bout d'un moment de vivre seule. S'il n'y a pas de communauté autour. Donc moi, mon rêve, et je vais déménager de Paris, c'est de trouver un endroit. Alors, je vise la campagne, parce que je me dis qu'à la campagne, il y a plus de liens entre les habitants, mais c'est pas forcément vrai. Mais je sais pas, une communauté, il y a de plus en plus ça, enfin, un peu comme à la ZAD, où il y a une sorte de... Enfin, je parle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où je suis déjà allée, mais il y a de plus en plus de communautés qui se créent en France sur des valeurs communes. Et des gens, voilà, qui se donnent des vrais coups de main. C'est-à-dire qu'ils construisent leur maison ensemble, qui font le jardin ensemble, le potager, qui mangent ensemble, qui règlent les factures d'électricité ensemble. Enfin, moi, ce dont je rêve, c'est vraiment de mon espace. C'est-à-dire un minuscule espace. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment avoir un 15 mètres carrés, un 20 mètres carrés. J'ai vraiment pas besoin de plus. Qui ne n'appartient qu'à moi. C'est-à-dire, je ramène qui je veux dedans, mais en échange, je peux aussi rester seule sans que personne me fasse chier. Et voilà, que je gère toute seule. Et par contre, dès que je sors de mon 15 mètres carrés, de savoir qu'en fait, il y a des gens. Et c'est pas que dans le sens pour que eux me fassent me sentir moins seule et m'aident si j'ai un problème de plomberie. C'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, vivre en communauté, c'est vivre en interdépendance, quoi. je réfléchis, soit une communauté féministe, une communauté lesbienne, une communauté écolo, ou une communauté juste de gens divers et variés, enfin je sais pas du tout. Je pense que c'est pas moi qui vais choisir, c'est plutôt la communauté qui va me choisir, parce que c'est assez difficile à trouver. Voilà, j'ai complètement dérivé le sujet. Au début, je voulais parler du célibat. Mais voilà, ce que je voulais dire, en fait, c'est que moi, ce dont j'ai vraiment envie, c'est d'être célibataire et de faire ce que je veux de mon corps, de mon esprit, de ma vie. Et que je suis convaincue depuis toujours qu'être en couple m'empêchera de faire ce que je veux. D'une façon ou d'une autre, même inconsciemment, je ferai pas les mêmes choses, les mêmes choix si je suis en couple. Et après, il y a le féminisme qui est arrivé et je me suis rendu compte, effectivement, que les femmes en couple hétérosexuel, elles avaient tout à perdre, en fait. C'est-à-dire, les hommes, dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, je vais généraliser encore une fois, mais il y a forcément une situation... il y a forcément une des choses que je vais citer qui s'applique à chaque couple hétérosexuel. Donc, il peut y avoir de la violence physique, c'est-à-dire les mecs... battent leurs femmes, violent leurs femmes, tuent leurs femmes, réduisent en esclavage, que ce soit domestique, sexuel, dominent leurs femmes, maltraitent aussi psychologiquement, manipulent leurs femmes, exploitent leurs femmes financièrement, sous tous les sens du terme aussi. Et ça peut sembler radical, comme un peu violent ce que je viens de dire, mais forcément, dans tous les couples hétérosexuels, il y a des vestiges du patriarcat, et donc, d'une façon ou d'une autre, la femme se fait exploiter, se fait violenter, même si c'est une mini-violence, même si c'est juste ton mec qui t'a lancé une phrase sexiste en 30 ans de mariage, c'est déjà une violence de trop, quoi. Et du coup, bien sûr, on peut l'accepter et on peut être heureuse en couple hétérosexuel. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que avec mes recherches féministes, ça m'a confortée dans l'idée que le couple hétérosexuel n'est pas un espace safe et surtout que la femme n'a rien à gagner à être en couple hétérosexuel, vraiment rien, parce que si on compare le trajet d'une femme donc cisgenre hétérosexuel et d'un homme cisgenre hétérosexuel. On va dire les deux se mettre en couple. Avant d'être en couple, quand ils étaient célibataires, on va dire la meuf, elle avait une carrière, elle avait des projets, elle avait une personnalité, elle avait pas d'enfants, machin. Et le mec, pareil, il avait une carrière, il avait des projets, il avait une personnalité, pas d'enfants. Et quand ils se sont mis en couple, ce qui s'est passé, c'est que on va dire dans le schéma traditionnel, hein, il peut y avoir bien sûr d'autres histoires, on va dire que ce couple... est tombé amoureux. Il y a eu la lune de miel, la passion. Après, ils ont commencé à habiter ensemble. Donc déjà, la meuf s'est mise à devoir gérer un espace plus grand, puisque s'ils habitent ensemble, logiquement, ils ont pris un appart plus grand pour être à deux. Et donc, elle a dû nettoyer, s'occuper des tâches domestiques, des courses, du linge, du ménage, des tâches administratives pour un logement plus grand. Je dis dans un cadre traditionnel. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a des mecs qui font le ménage. Mais dans 99% des cas, la meuf en fait plus que le mec. Donc forcément, là, elle perd déjà au change. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'induit le couple hétérosexuel dans les relations amoureuses et sexuelles où... elle va donner sa personne, elle va faire plus attention au bien-être de l'autre, au plaisir de l'autre. Donc elle va s'oublier, en fait, un petit peu au profit de l'autre. Tandis qu'un mec... mais j'en reviendrai après à ce que le mec lui fait. Et donc elle va perdre aussi en temps pour elle-même, pour son développement personnel, pour ses projets. Et puis ensuite, dans sa carrière, logiquement, elle va peut-être se marier, faire des gosses... et à passer du temps avec ses enfants, les éduquer, avec son mari, en vacances, dans la maison, etc. Donc elle va... tout ça va empiéter sur sa carrière, donc elle va gagner moins d'argent, donc elle va évoluer moins vite, donc elle va être moins satisfaite de sa carrière. Et au final, une meuf qui se met en couple hétérosexuel, elle a tout à perdre, en fait. Et elle va perdre... Et surtout, il y a des études qui prouvent qu'elle sera moins heureuse et qu'elle va mourir plus jeune qu'une meuf qui est restée célibataire toute sa vie. Et qu'elle va quand je dis qu'elle meurt plus jeune, c'est aussi qu'elle vit en bonne santé moins longtemps, c'est-à-dire elle va abîmer sa santé plus tôt. Et du côté du mec, lui, en fait, alors qu'une meuf, quand elle se met en couple hétérosexuel, elle a tout à perdre, ça veut pas dire qu'elle va tout perdre, je dis juste que dans un sens ou dans un autre, elle va perdre quelque chose. Le mec, lui, hétérosexuel, dans une relation classique, il a tout à gagner. Mais vraiment tout à gagner, donc c'est-à-dire qu'il va, ça va le booster dans sa vie de se mettre en couple avec une meuf. Donc lui, sans doute qu'il va profiter en fait de ce cadre et que bah il va en faire moins domestiquement et faire moins le ménage, faire moins les courses, il va faire moins la cuisine, faire moins le linge, il va laisser certains pans de cette vie domestique à sa compagne. Et puis sexuellement aussi, il va profiter, ça va lui apporter beaucoup de confort d'avoir une femme entre guillemets qui pense à son plaisir et qui peut exploiter sexuellement. Il va être boosté dans sa carrière, dans sa vie, dans sa personnalité parce qu'elle va lui donner confiance en lui, elle va être à son écoute, il va pouvoir s'ouvrir à elle, lui parler de ses problèmes, elle va faire sa psy très souvent, ce qui n'est pas réciproque. Donc elle va l'aider à régler ses problèmes, ils vont faire des enfants et c'est lui qui va en profiter socialement parce que ça va pas du tout le freiner dans sa carrière, au contraire il va être reconnu par ses pairs, par ses potes, par ses chefs comme un bon travailleur mais aussi un bon père de famille qui coche toutes les cases d'une vie réussie pour un homme. Et voilà, il va monter les échelons grâce à sa femme et grâce aussi à son travail sans doute, et gagner plus d'argent, occuper des postes de pouvoir, et mourir plus vieux, et en meilleure santé, et être plus heureux. Donc en fait, ce que je te dis là, c'est pas moi qui théorise, hein, c'est des études très documentées, très anciennes, qui le prouvent en fait. Tout ce que je viens de dire là, c'est que c'est scientifiquement prouvé par des études sociologiques, des études scientifiques, de santé, etc. sur la santé des hommes, la santé des femmes, et si ils vivent, ils et elles vivent en façon célibataire ou en couple. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se mettre en couple. Je dis juste que ça, c'est le fondement un peu du célibat politique. On est célibataire pour des raisons différentes. Par exemple, moi, je suis célibataire parce que j'ai besoin de cette liberté et j'ai envie de rester seule. Mais après, la dimension politique, elle peut s'appuyer sur ce que je viens de raconter, en fait. Sur le côté pratique, en fait. Enfin, genre, le côté féministe. En fait, voilà. Et puis maintenant, je vais prouver par l'exemple. C'est-à-dire, j'étais en couple de mes 17 ans à mes 24 ans. Et donc pendant 4, 5, 6, 7 ans, j'étais en couple. Et avant ça, avant 17 ans, j'étais chez mes parents. Voilà. Mais après 24 ans, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai quitté mon copain à l'été 2018. Et depuis, j'ai fait des trucs que je n'avais jamais fait. Et que je suis certaine, je n'aurais pas fait si j'étais encore avec lui. Si j'étais restée avec lui. Alors, j'ai fait une dépression. Donc ça, c'est peut-être pas le truc le plus drôle, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était le moment où j'avais besoin d'en faire une. Donc je l'ai quitté, j'ai fait une dépression. J'ai dénoncé le mec qui me harcelait sexuellement au travail. Et j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Je suis sortie de ma dépression. J'ai quitté mon taf. Je suis partie faire le tour du globe en cargo. J'ai écrit un roman. J'ai terminé le chemin de Compostelle. Je suis devenue journaliste pigiste. J'ai écrit des articles publiés dans la presse magazine sur les droits des femmes. Voilà, j'ai encore approfondi mon féminisme. J'ai lancé mon podcast. J'ai couché avec plein de personnes, j'ai embrassé des femmes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait la fête. J'ai fait la fête, j'ai fait du stop. Et là, je suis encore en train de partir en voyage en Scandinavie. Et surtout, j'ai passé beaucoup de temps avec mes amis, avec ma famille. Voilà. Franchement, tout ça, je n'aurais Enfin, je dis pas que j'aurais rien fait si j'étais restée avec lui, mais j'aurais jamais pu faire tout ça. Et quand je me revois en couple, et quand je repense aux périodes où j'ai quitté mes copains, parce que j'ai quand même eu des périodes de célibat, bah, les périodes où j'ai fait plus de trucs de voyage, de trucs originaux, j'ai pris plus d'initiatives, j'ai multiplié les projets, c'était des périodes où j'étais célibataire. Quand j'étais en couple, ça m'a... Enfin, je dis pas que c'est un lien, mais c'est juste ce que je constate, c'est que je restais dans des cases, en fait. Quand j'étais en couple, bah, j'acceptais un boulot pourri, j'acceptais des fois des relations pourries, j'acceptais le train-train quotidien, la routine, qui était pas forcément pourrie tout le temps, hein. Et maintenant, c'est... Puis c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que maintenant, je vis vraiment au jour le jour, et je me projette pas du tout. Et je pense qu'il y a un truc aussi quand on est en couple, où avant, c'était pas forcément lié au couple, mais avant j'étais obligée de me projeter, je me disais toujours, ah, je me vois là dans 1 an, je me vois là dans 5 ans, je me vois là dans 10 ans. Et il y a un truc quand on est amoureuse où je me disais, bah, c'est, ça se trouve, je vais passer ma vie avec lui et tout, on veut y croire, quoi. Donc je me projetais peut-être aussi en couple, et aujourd'hui je vis vraiment au jour le jour, c'est-à-dire, je ne sais pas. Je sais techniquement ce que je fais la semaine prochaine, dans 2 semaines, etc. Mais je ne sais pas ce que je fais le mois prochain. Je vais partir de Paris, je ne sais même pas quand je vais partir de Paris, je sais juste que ça va être bientôt et que je ne sais même pas où je vais aller. Mais moi, maniaque du contrôle, c'est totalement nouveau ça. C'est inédit. Moi, j'ai besoin tout le temps de savoir qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas, hier j'étais dans les rues de Lübeck, donc dans le nord-est de l'Allemagne, enfin dans le nord de l'Allemagne, et je suis sortie du train, et en fait mon ferry était en retard, du coup je devais passer la nuit à Lübeck, et j'avais rien réservé, donc je savais même pas où j'allais dormir. Et je suis arrivée à Lübeck, j'en avais rien à foutre, j'ai fait toutes les auberges de jeunesse de la ville, et elles étaient toutes fermées parce qu'il était genre 23h minuit, et que, je sais pas, c'était trop tard pour arriver quoi. Et je faisais les auberges, elles étaient fermées, elles étaient fermées. J'ai marché 1 heure dans Lübeck et je n'ai même pas paniqué en fait. Je me suis même pas dit, mais mon Dieu, je vais passer la nuit dehors, c'est dangereux, blablabla. Finalement, je suis allée à l'hôtel, j'ai payé une blinde. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec le célibat politique, mais ça a à voir quand même avec l'indépendance et l'autonomie. Moi, je trouve ça hyper important de faire des trucs toute seule et c'est ça aussi qui aide à lutter contre la dépendance affective. Bref. Donc voilà, ça c'est un peu les côtés cool du célibat. Maintenant, pourquoi c'est pas évident? C'est-à-dire que moi je te dis que je suis célibataire politique aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été évident en fait, et ça ne l'est toujours pas. Et ma psy ou n'importe quelle de mes amies, n'importe laquelle de mes amies me dirait objective. Enfin, dirait, ferait comme objection. Mais alors, pourquoi tu passes ton temps à chercher des mecs? Et ma psy, elle me disait avant-hier, mais pourquoi vous restez dans ces relations insatisfaisantes? Parce qu'en ce moment, j'ai des relations très insatisfaisantes avec deux mecs que je vois plus qu'épisodiquement et qui, par texto, sont vraiment... De temps, quoi. Donc ça me saoule parce que moi, je supporte pas qu'on réponde à mes textos 5 jours après. Mais de n'importe qui, hein, je veux dire. Mais en plus de mecs qui sont censés être intéressés par moi. Enfin bref. Donc bref, la réponse est simple. Je lui ai dit pourquoi je me satisfais de ces relations insatisfaisantes. C'est parce que je préfère avoir des relations insatisfaisantes que pas de relations du tout. Et là, tu vas me dire, mais tu viens de dire que tu étais célibataire politique. Alors oui, bienvenue dans la contradiction de Marie-Albert. Mais en fait, je vais l'expliquer, c'est assez simple. C'est que, en fait, je vis dans une société qui met tout en œuvre pour que je me case. Mais vraiment, tout en œuvre pour que je me mette en couple. Et là, je vais parler de sexe et je vais parler d'un truc qui vient de se passer et qui me fait beaucoup de mal. Enfin, qui me fait beaucoup de mal. Qui est de ma faute d'ailleurs, c'est que ma meilleure amie est en couple avec un mec depuis 6 ans et ça fait longtemps qu'elle a pas baisé avec lui. Et quand j'ai appris que ça faisait longtemps qu'il baisait pas, J'étais hyper choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu me l'as pas dit? Et pour elle, c'était une non-histoire. Enfin, vraiment, elle était en mode, bah, je sais pas, on s'en fout. Enfin, ça n'a pas d'importance. Pour elle, ça ne change strictement à rien, à l'amour que les deux personnes se portent, à leur relation. Enfin, ça n'a vraiment aucune importance. Et moi, j'étais hyper choquée. Parce que pour moi, le sexe, c'est hyper important. Je reste dans l'idée que quand on est en couple, on doit baiser. Même si je suis d'accord que quand ça fait plusieurs années qu'on est en couple, on n'est pas obligé de baiser toutes les semaines. Hein. C'est logique qu'il n'y a plus vraiment de désir au bout d'un moment. Mais là, je me suis dit, mais attends, c'est pas normal. Ça fait tellement longtemps qu'ils ne sont pas baisés. Il faut en parler. Et surtout, j'ai eu une réaction vraiment épidermique, genre, what? Et elle, en fait, je me suis rendu compte longtemps après que ça l'avait blessée. Et qu'en fait, c'était sexiste comme réaction. C'est-à-dire, enfin, sexiste, tout ce qu'on veut, mais on vit dans une société tellement normée, hétéronormée, où voilà, il faut être en couple et en plus, faut baiser, quoi. Et si on baisse pas, ça y est, on est anormal, on est forcément malheureux, ça va forcément pas bien dans le couple. Et du coup, voilà, je regrette beaucoup ma réaction. Et donc, ça revient à ce que je voulais dire sur les normes, en fait. C'est-à-dire, depuis que je suis toute petite, on m'apprend, si on parle du sexe, qu'il faut baiser, mais pas le montrer. Hein. Hashtag dédicace à Instagram qui vient de supprimer mon compte parce que je parle trop de cul. Donc il faut baiser mais pas le montrer publiquement. Il faut être une salope au lit mais pas le crier sur tous les toits. Et tout simplement par rapport au couple, il faut être en couple quand on est une petite fille cisgenre et hétérosexuelle. Mais forcément, si on est une petite fille, on est forcément cisgenre et hétérosexuelle, hein, c'est sûr. Il faut être en couple avec un mec cisgenre et hétérosexuel. De toute façon, tous les hommes sont cisgenre et hétérosexuels, c'est bien connu, quoi. Et tu vas me dire c'est facile comme excuse l'histoire de la société machin, mais moi je suis comme ça, je suis constructiviste, je pense vraiment que la société nous façonne, quoi. Et par exemple, j'en ai marre qu'on dise toujours c'est la faute de mes parents, tu vois. J'ai passé une bonne partie des dernières années à tout rejeter sur ma mère, à dire c'est la faute de ma mère si je suis comme ci, c'est la faute de ma mère si j'ai ces problèmes ci, c'est la faute de ma mère si c'est cela. Après, je suis passée à mon père aussi a des torts, mais bon, c'est mon père donc je veux pas le critiquer, alors que entre mes deux parents, la personne la plus violente, c'est mon père, mais bon, la personne la plus toxique, c'est peut-être ma mère. Enfin bref, j'ai pas des parents parfaits, mais en tout cas, j'en ai marre, en fait, de rejeter la faute sur mes parents, parce qu'en fait, mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et surtout, il n'y a pas que mes parents qui m'ont éduquée, qui m'ont construite. En vérité, c'est toute la société qui nous construit. On dit toujours ça, il faut tout un village pour élever un enfant, mais il faut toute une société pour élever un enfant. Enfin, moi, j'ai été influencée par tout le monde. Et si on en revient au couple hétérosexuel, bien sûr, j'étais influencée par mes parents, mais aussi par tout le discours, en fait, autour de... Bah, il faut être en couple, les dessins animés, les films, la musique, les romans... Enfin, tout ce qu'on nous montre à petite fille, adolescente, c'est ça, quoi. Donc, au bout d'un moment, enfin, moi, je trouve ça hyper difficile de se projeter dans autre chose. Aujourd'hui, maintenant que j'ai 25 ans, je dirais les applis de rencontre. Tout le monde parle tout le temps de ça, les applis de rencontre. Là, en ce moment, il y a une campagne de publicité dans le métro pour Durex. Bon, ça n'a rien à voir, c'est des préservatifs, mais ça parle encore de cul et de il faut baiser et machin. Il y avait une campagne, je dis pas que c'est pas bien, hein, je te dis juste ce que j'observe. Le mois dernier, c'était Bumble, c'était pour l'appli Bumble, qui une appli de rencontre dans le métro. Après, il y a Adopter un mec partout. Enfin, voilà. Tout ça, c'est des trucs omniprésents et toujours tes potes, moi-même, hein, la première, hein, qui demande, je fais ça aussi avec mes potes, hein, qui demande, alors, t'es en couple, t'as trouvé quelqu'un, t'as trouvé un mec, tu baisses qui en ce moment, il y a quelque chose d'une injonction, mais permanente. Et surtout, moi qui suis féministe, dans beaucoup de travaux féministes, on parle en fait de ce cadre hétérosexuel, en fait. Et on part du principe que forcément, si on est féministe, on est hétérosexuel, et donc que voilà, on est concerné par les problèmes de sexisme dans le couple, etc. Et en fait, tout est écrit d'un enfin, on vit dans une société hétéronormée, du coup, tout est écrit d'un point de vue hétéronormé, mais surtout, il faut le faire, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas réussir ta vie si t'es pas amoureuse, si tu rencontres pas l'homme de ta vie, si tu fais pas d'enfant. Et moi, je sais que je veux pas faire d'enfant, que je veux pas vivre en couple, que je veux pas me marier, que je veux pas passer toute ma vie avec un mec, mais l'amour, le fondement même, tu vois, être en couple, avoir quelqu'un dans ma vie, c'est un truc que j'arrive pas à dépasser. C'est-à-dire, c'est quand même à la mode de dire que on veut pas d'enfant, qu'on veut pas se marier, c'est un truc dans les courants féministes qui est quand même globalement accepté, enfin je veux dire qu'on en parle, qui est globalement compris, mais l'amour, c'est un truc, ça revient tout le temps. En fait, pas seulement les courants féministes, enfin tout le temps, c'est genre. De toute façon, la plus belle chose dans la vie, c'est aimer et être aimé. J'ai entendu ça encore tout à l'heure. Cécile Duflo qui disait ça au micro de Lorraine Bastide dans le podcast La Poudre. Mais tout le temps, et c'est sous-entendu aimer et être aimé par un homme hétérosexuel. C'est pas forcément ce qu'elle voulait dire, Cécile Duflo, mais c'est tout le temps ce qui est sous-entendu, en fait, et ce que moi, je comprends. Et dans tous les romans que je lis, il y a forcément un moment où on va parler d'une meuf qui tombe amoureuse d'un mec, et même quand c'est pas une meuf qui tombe amoureuse d'un mec. Hier, j'ai lu en 3 heures le roman Homo Sapiens de Niviaq Korneliussen, qui est une autrice groenlandaise. Voilà, c'est présenté comme un roman queer, hyper moderne, hyper actuel, hyper subversif. Et c'est vrai. Mais là, je vais spoiler, attention spoiler, si tu veux pas entendre la fin, saute ce passage. À la fin, en fait, ça finit sur la meuf qui est amoureuse d'une autre meuf et elle vient de larguer son ex et elle est dévastée par cette rupture. Et heureusement, ça finit bien parce qu'elle se met en couple avec la meuf dont elle était secrètement amoureuse jusqu'alors. Ça finit comme ça le roman, genre. Espoir, il y a de l'amour, elles se seront mises en couple, c'est bon, blablabla. Je suis en mode, mais en quoi c'est subversif, en quoi c'est féministe, en quoi c'est moderne, quoi. Enfin, j'adorais ce roman, vraiment. Encore une fois, c'est pas une histoire de critiquer, c'est juste que c'est partout. Et même dans les trucs féministes, en fait, et même dans les trucs queer, c'est toujours de l'amour, 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 l'amour. Et c'est peut-être aussi parce que je suis obsédée par ça, hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un discours qui est vraiment orienté vers les meufs. Et en fait, j'en peux plus. Et en fait, je fais un burn-out militant, si tu veux, mais vraiment un burn-out général des mecs, des relations, de l'amour, je n'en peux plus. Et je fais ça régulièrement, c'est-à-dire, en fait, ça me gave. Et moi, en fait, par exemple, quand je rate une relation, c'est-à-dire quand je m'attache émotionnellement à un mec qui n'est pas disponible émotionnellement, et forcément, ça plante, parce que secrètement, j'ai pas envie d'être en couple, ça me soulage. Il y a une partie de moi qui est soulagée que ça échoue, parce que c'est ce que j'ai cherché, tu vois. Et après, je pars quelques mois en voyage, quelques mois dans le célibat, je supprime toutes les applis, je coupe tout, et je me sens, mais trop soulagée, quoi. Et il y a forcément toujours un moment où ça revient. C'est-à-dire, c'est toujours un truc qui revient. Je me réinscris sur l'appli. Vraiment, je suis dépendante affective, je retombe amoureuse d'un mec qui va me traiter comme de la merde. Je recherche à nouveau l'amour, je lis 10 000 essais de psychologie, Eva Illouz, Livstrom Quist sur les relations hétérosexuelles, machin, des romans d'amour, des films d'amour. Je ne fais que ça. Je suis ma première geôlière, hein, c'est toujours ça. Hein. Mais en vérité, ça me gave. Et même, tu vois, quand je suis ma psy et que vraiment, je suis plus en dépression, j'ai plus aucun symptôme dépressif. Enfin, une fois par mois, j'ai un petit coup de mou, mais je vais bien, j'ai la vie que je veux, j'ai des problèmes, mais enfin voilà, ça avance. Les trucs qui reviennent tout le temps chez ma psy, c'est mes relations avec les mecs. Et en fait, avant-hier, ça me saoulait. En fait, je me disais vraiment, mais j'ai pas... Enfin, là, je suis en train de payer 60 balles la consultation pour parler d'un non-sujet, quoi. En fait, je suis en train de parler du fait que ça marche pas avec les mecs, alors que je sais très bien pourquoi ça marche pas. Que pendant ce temps, eux ne sont pas du tout en train de parler de ça à leur psy, alors que c'est franchement eux qui en auraient plus besoin que moi. Vu le nombre d'heures où j'en ai déjà parlé avec ma psy, c'est bon. Et surtout, j'ai envie de parler d'autre chose, quoi. Ça me saoule de payer 60 balles chez ma psy pour parler de mec indisponible émotionnellement. Enfin, ça m'insupporte. Et je pense que il y a aussi un truc du fait que c'est toujours entre guillemets mauvaise féministe. Il y a un essai de l'américaine noire et féministe qui s'appelle Roxane Gay. Elle a écrit un essai connu qui s'appelle Bad Feminist où elle explique qu'elle est une mauvaise féministe. Et toutes les féministes, on pourrait dire ça, on est des mauvaises féministes. Et moi, il y a un truc toujours qui revient, je me sens coupable aussi, je me sens toujours mauvaise féministe quand je reviens sur l'appli de rencontre, que je continue à rencontrer des mecs. Et aussi, à un moment donné, j'étais dans un mouvement militant avec des meufs queer et lesbiennes et bi. Et moi, je disais tout le temps, bah, je suis pansexuelle, je suis attirée par les femmes, mais je sais pas pourquoi je couchais avec des mecs. Et du coup, ça fait de moi une mauvaise féministe. Je suis dans des relations de merde parce que de toute façon, j'en ai même pas envie. Enfin, c'est voué à l'échec. Et ces meufs militantes, féministes, queer, me disaient, mais meuf, arrête de coucher avec des mecs, couche avec des meufs, arrête d'aller vers des connards. Et en fait, ça me faisait encore plus culpabiliser que ces meufs me culpabilisent, en fait. Que ces meufs me disent, mais qu'est-ce que tu fous? Du coup, ça en remettait une couche. Et je me sens hyper coupable. À chaque fois que je vais sur les applis, et que je parle avec des mecs, à chaque fois que je baise des mecs, à chaque fois que je deviens dépendante affective de mecs, à chaque fois que je leur... qu'ils me font souffrir. En fait, je me sens tout le temps coupable parce que je me dis, je suis une mauvaise féministe. Si j'étais une bonne féministe, ben, j'arriverais à être célibataire politique, ou j'arriverais à être lesbienne, j'arrêterais de parler à ces mecs. Et puis de l'autre côté, il y a ma psy qui m'aide, qui essaie de m'aider pour avoir des relations plus apaisées, plus simples, plus sereines avec les hommes, pour sortir de ma dépendance affective, pour aller mieux. Mais en fait, tout ça se recroise et au final, je me dis toujours, mais il n'y a rien qui évolue, quoi. C'est-à-dire, je continue à aller avec des mecs avec qui je sais que ça ne peut pas marcher, parce qu'au fond de moi, je veux pas être en couple. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie d'être en couple avec une meuf ou avec une personne non binaire. Je n'ai vraiment pas envie d'être en couple. Alors bien sûr, j'ai envie d'amour, j'ai envie d'être amoureuse. Je dirais qu'aujourd'hui, j'essaie dans la nuance, c'est-à-dire, je te dis que je suis célibataire politique, mais en fait, je suis célibataire depuis un an et demi et je galère à mort. Je dis pas que c'est facile. Et surtout, je suis toujours dans la contradiction et dans la nuance. Et pour moi, c'est un progrès. Parce que j'ai tendance à être bipolaire, à passer par tous les états émotionnels très rapidement, à avoir un avis très tranché sur les choses, puis un autre. Et vraiment, c'est l'ascenseur émotionnel en moi. Et ce que je recherche dans ma vie, c'est plus de nuances, en fait. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si je veux être célibataire politique, ça veut pas dire que je veux être seule. J'insiste vraiment là-dessus. En fait, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Quand je dis que je suis féministe, c'est une volonté d'être féministe. Mais il y a plein de moments de ma vie où je suis sexiste. Vraiment, objectivement, par exemple, j'ai pensé à ça tout à l'heure aussi. Mes deux cousines, qui ont mon âge, sont tombées enceintes très tôt, à 20 ans à peine, et ont eu des enfants. Et moi, j'ai vraiment condamné ça. Je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qu'elles foutent? Elles font de la merde, pourquoi elles avortent pas? Pourquoi elles sont pas mieux protégées? Ça va gâcher leur vie, elles sont vraiment inconséquentes, elles n'ont pas de cerveau. Et c'était une réaction hyper sexiste. Je m'en rends compte juste aujourd'hui. C'est-à-dire, en écoutant aussi Cécile Duflot, micro de Lorraine Bastide, qui explique qu'elle a fait des enfants tôt et qu'on l'a culpabilisée pour ça, surtout que c'était une femme politique, qu'elle s'occupe pas des enfants, nanana. Et elle disait, bah en fait, si j'ai envie de faire des enfants tôt, je fais ce que je veux, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, qui je suis? Mes cousines, je les ai jamais critiquées en vrai, mais bon, je pense, enfin, je sais pas si je les ai déjà critiquées en vrai, j'espère pas. Mais c'était tellement sexiste de penser, juste de penser ça. Et puis j'en ai parlé avec, je l'ai dit à ma mère, tu vois, que j'étais contre et tout. Ok, moi j'ai peut-être pas envie d'avoir d'enfant à 20 ans, mais la vérité c'est que j'ai pas envie d'avoir enfant à quel que soit mon âge. Alors pourquoi une femme qui fait un gosse à 30, 35 ans, je trouve ça nul, mais ok. Elle fait ce qu'elle veut, mais ma cousine qui fait un gosse à 20 ans, c'est vraiment une débile. Enfin, c'est hyper sexiste. Et je me rends compte que maintenant, en fait, elle veut faire un gosse à 20 ans, même si c'est un accident, le gosse, bah, elle a le droit de le garder. Et enfin, elle est absolument pas coupable de ça, et ça veut pas dire que sa vie va être ruinée. Enfin, n'importe quoi. Et donc, voilà. j'ai un peu divagué tout ça pour dire je suis féministe mais j'ai plein de moments où je suis sexiste. Et ben, je suis célibataire politique, mais peut-être qu'il y aura plein de moments de ma vie de célibataire politique où je serai en couple, dans des couples ultra toxiques, tu vois. Et c'est comme quand je dis que je veux vivre seule, mais que je veux vivre dans une communauté. En fait, c'est des trucs, c'est des idéaux, c'est des valeurs, c'est des choses où j'ai le bagage théorique, je sais pourquoi je veux vivre seule, je sais pourquoi je veux être célibataire politique, je sais pourquoi je suis féministe. Mais c'est pas acté quoi, c'est pas quelque chose d'inscrit dans le marbre. Et par rapport à l'amour, moi je sais que je cherche l'amour, que j'ai un problème de dépendance affective via une histoire familiale, plein de choses. Et je sais que je cherche aussi le sexe, que j'aime beaucoup le sexe. Et donc je sais que je pourrais jamais être la célibataire politique qui ne baise personne, qui n'aime personne, c'est pas possible. Mais en fait, c'est pas parce que je suis célibataire politique que je peux pas tomber amoureuse, que je peux pas être dépendante affective, que je peux pas aimer des gens. Et il y a des périodes de ma vie où je me disais, bah en fait, ces mecs me traitent comme vraiment mal, bah en fait, je vais juste arrêter de parler à tous les mecs, je vais juste tous les haïr, je suis trop en colère contre eux, je vais plus jamais tomber amoureuse, je vais plus jamais faire de sexe avec des mecs. En fait, je sais, je m'observe, ça ne marche pas. C'est-à-dire, pendant quelques mois, oui, ça me soulage, je m'enfuis, blablabla. Puis je reviens toujours. Du coup, aujourd'hui, je suis dans la nuance et je me dis, bah en fait, je travaille sur ma dépendance affective, je travaille sur mon célibat et j'essaye de pécho plus de meufs, de sortir un peu l'hétérosexualité. De faire la différence entre la dépendance affective et le vrai amour. Par exemple, en ce moment, je relationne lol avec deux mecs, mais je suis pas du tout amoureuse d'eux. Je suis pas du tout enfin, je suis un peu dépendante affective, mais pas du tout comme j'aurais pu l'être avant. Enfin, je vois les progrès en temps réel et je sais que je ne les aime pas, en fait. Que je suis pas prête à leur donner d'amour. Et donc, ça viendra peut-être, mais que pour l'instant, je suis pas prête à leur donner d'amour. Et que tant mieux en fait, parce que notre relation est tellement insatisfaisante. Et en même temps, je vais pas non plus les larguer du jour au lendemain. Je me dis, bah, peut-être que ça peut devenir des amis, tu vois. Peut-être que ça peut devenir des personnes. Juste des connaissances, peut-être. Enfin, moi je sais que ce qui me fait souffrir dans la vie, c'est les choix préconçus, quoi. C'est de me culpabiliser ensuite parce que j'arrive pas à respecter ses choix. C'est ça qui me fait vraiment chier. De me dire, je vis seule, ah merde, j'aime pas vivre seule. Ah voilà, je suis végane, ah merde, j'arrive pas à être végane. Ah voilà, je suis écolo, ah merde, j'arrive pas à être écolo. Ah, je suis féministe, ah merde, j'arrive pas à être célibataire, machin. C'est ça qui me fait souffrir. Et surtout, ce qui me fait souffrir aujourd'hui, c'est de haïr les hommes. S'il y a bien un truc que je déteste en moi, c'est toute cette colère et cette haine que j'ai envers les hommes. Parce que je sais que c'est pas censé. Que ça ne me sert à rien. Que déjà, haïr qui que ce soit, ça ne sert à rien. Que mettre tous les mecs dans le même panier, ça ne sert à rien. Et même de dire qu'un seul mec est un monstre ou un connard, c'est faux en fait. Genre, on est tous des connards dans certaines choses et des personnes bien de l'autre côté. Enfin, voilà. On est tous l'agresseur et l'agresseuse de quelqu'un d'autre. Enfin, en fait, ça sert à rien de haïr les gens pour un truc que je leur reproche collectivement alors que... Enfin... Je sais que la théorie est là, que on vit dans un système patriarcal et que les hommes oppriment les femmes. Mais en fait, la haine et la rancœur, la colère, ça ne me sert à rien. Ça me fait même pas avancer dans mon féminisme, ça me fait même pas avancer dans ma vie, ça ne me sert à rien. Donc moi j'ai juste envie de me débarrasser de ça. Et de me dire, bah, on est des êtres humains, il y en a qui sont avec une bite, il y en a qui sont avec des vieux, il y en a qui se reconnaissent comme des hommes, il y en a qui se reconnaissent comme des femmes. Il y en a qui sont construits différemment socialement parce qu'ils sont nés avec une bite ou d'autres avec une vulve. Et c'est comme ça. La société, elle est comme ça. Je peux pas la changer. Est-ce que je peux considérer toutes les personnes comme des êtres humains avant d'être des hommes ou des femmes? Est-ce que je peux essayer de nouer des amitiés avant de vouloir construire l'amour de ma vie? Parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'avoir un amour de ma vie. Donc, voilà, c'est un peu ce que je pense. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, je pense ça. Hein. Aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment envie d'être célibataire. Et puis demain, je vais penser l'inverse. Que l'amour, c'est génial. C'est la meilleure chose au monde. Et qu'il faut absolument que je tombe amoureuse d'un mec qui m'aime en retour. Et là, je me dis, mais pourquoi ce serait forcément un mec? Tous les hommes sont des connards. Je les hais, machin. Donc, c'est vraiment terrible dans ma tête. Mais aujourd'hui, voilà ce que j'ai ce que je pense, et voilà, je veux juste un peu plus de douceur, un peu plus de liberté, un peu moins de jugement en fait. Et du coup, pour revenir au pratico-pratique, j'en ai marre de voir les relations hommes-femmes disséquées partout, de lire que des trucs liés à l'amour, ça me fait chier. Et en même temps, je peux pas m'empêcher, ça m'aimante, parce que c'est quand même cool l'amour. Et puis j'ai été socialisée à attendre que ça de la vie. Enfin, le nombre de fois où j'entends, où je pense même dans ma tête, la chose la plus belle qui peut m'arriver dans la vie, c'est de tomber amoureuse. Il y a rien de plus beau que l'amour, machin, de plus fort, blablabla. Alors que franchement, si je réfléchis, les personnes avec qui j'ai les relations les plus fortes, pour lesquelles je ressens plus d'amour et vice-versa, c'est des personnes de ma famille, c'est des personnes de mes amis, mais c'est en aucun cas des mecs. Même si je réfléchis aux relations qui m'ont le plus apporté, où il y a eu plus d'amour, qui m'ont rendu plus heureuse, mais jamais je te citerai un mec. Jamais. Donc, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que y a plein de personnes qui peuvent te donner de l'amour et me donner de l'amour, et c'est pas forcément dans un cadre conjugal, quoi. Et du coup, il y a des périodes comme ça où j'ai envie juste de me couper du féminisme, de me couper des relations amoureuses, des films romantiques, des romans d'amour. Mais voilà, je culpabilise aussi pour ça, parce que je me dis, tu vois, t'es en train d'éviter le problème. T'es en train d'éviter de contourner l'amour, alors qu'il faudrait que tu creuses. Et en fait, non. Enfin, l'amour, j'y pense tout le temps. Les relations avec les mecs, j'y pense tout le temps. C'est un truc que je creuse fois 1 million. Donc, s'il y a bien un domaine que j'ai pas besoin de creuser, c'est ça. Donc, quand j'en ai marre, en fait, là, je vais en Finlande. Avec ma sœur, on a un principe. Quand on est ensemble, elle est lesbienne. On ne parle pas de féminisme. Et alors qu'elle est féministe, hein. Mais on ne parle pas de féminisme. On ne parle pas de mecs. Et on ne se dévalorise pas. Enfin, c'est surtout moi qui dois respecter cette règle, parce qu'elle n'a aucun problème pour respecter la règle de ne pas parler de féminisme, pas d'hommes et de ne pas se dévaloriser. Mais moi, je fais ça parce que ça me fait un bien fou juste de parler d'autre chose. Enfin, en fait, dans la vie, il n'y a pas que les mecs. Il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que le féminisme, il n'y a pas que... Voilà. Donc, c'est un peu ça que je fais. Parce qu'au bout d'un moment, je sature, quoi, c'est burn-out. J'en peux plus de parler que de ça. Ça m'horripile. J'ai besoin d'air, en fait, vraiment. Et quand je suis ici, que je me sens tellement heureuse, que je me sens tellement en paix, et c'est là, en fait, où je me rends compte que c'est un mythe, l'amour, et que c'est quelque chose dont j'ai pas besoin. Je sais, c'est pas vrai, on a tous besoin d'amour, blablabla. Mais je parle vraiment de l'amour conjugal dans un cadre hétérosexuel, c'est un truc totalement construit. Et je pense qu'en fait, si voilà, les magazines féminins, la pop culture, enfin la culture en général, tout notre environnement passe, tous les gens passent leur temps à parler d'amour, de relations hétérosexuelles, c'est aussi pour nous mettre dans la tête, bah oui, donc je l'ai dit, c'est pour nous mettre dans la tête que c'est ça qu'on doit chercher, mais c'est parce que c'est pas si évident que ça. Je veux dire, qu'il faut boire, qu'il faut manger, qu'il faut aller aux toilettes, qu'il faut respirer, ça, on l'apprend pas dans les magazines féminins ou dans les romans, ça, on le sait. Mais par contre, pour les relations hommes-femmes, l'amour, le sexe, ça, il faut lire des bouquins, il faut regarder des films, il faut en parler toute la journée avec ses potes, parce que sinon, c'est dangereux, il se pourrait qu'on y échappe. Donc moi, je me dis, en fait, c'est peut-être parce que c'est pas si évident que ça. Le couple monogame hétérosexuel, c'est peut-être pas si évident que ça, et il faut peut-être nous le rentrer dans le crâne à coups de marteau pour que ça rentre, parce qu'en fait, on serait peut-être pas disposé à penser ça si on nous le vendait pas toute la journée. Enfin, franchement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les avantages et désavantages d'un couple hétéro pour un mec et une meuf, ça, si on était biberonné à ça depuis qu'on est petit, par ses études, par ses conclusions, je pense qu'on serait tous et toutes célibataires et que les mecs seraient tous à nos pieds. En fait, ce serait l'inverse de la situation actuelle. On vient un peu dans un monde imaginaire où les meufs donnent trop d'amour, trop d'attention aux mecs pour se mettre en couple parce qu'elles ont envie de se mettre en couple et les mecs fuient l'engagement. Mais en fait, si on, depuis notre temps d'enfance, on était biberonnés à l'idée que nous mettre en couple, quand on est une meuf, ça va nous desservir, et inversement pour les mecs, ben en fait, ce serait les mecs qui seraient à nos pieds toute la journée pour qu'on se mette en couple avec eux. Et nous, on serait en mode, bah non, enfin, pourquoi je me mettrais en couple avec toi? J'ai aucun intérêt à le faire. Ok, tu peux me faire un cuni si tu veux, mais ça n'ira pas plus loin. Oh mon dieu, mais ce serait tellement drôle. Enfin, je sais pas, moi, c'est pour ça aussi que je me trouve mauvaise féministe, c'est que je me dis quand même tout le temps, mais attends, je supplie un mec pour lui sucer la bite, alors qu'il me traite comme de la merde, et qu'il me rendra jamais heureuse. Donc il y a quand même un truc bizarre. Je sais très bien que je suis mieux seule, mais je vais quand même le supplier pour lui sucer la bite. Mais il y a vraiment un truc bizarre. Ça s'appelle le patriarcat. Voilà, et aussi je voulais faire cet épisode « Je suis célibataire politique » parce que je dis souvent que pour fuir ces relations déséquilibrées, ces relations hétérosexuelles déséquilibrées, on peut devenir lesbienne. Et moi, j'exclus pas d'avoir des relations, d'être en couple avec des femmes, mais on peut aussi être dépendante affective dans un cadre lesbien. On peut aussi être lesbienne et passer notre vie à chercher l'amour alors que ça nous rendra jamais heureuse. Donc le célibat politique, et puis surtout on peut ne pas vouloir devenir lesbienne, donc le célibat politique c'est un peu je dirais pas que c'est un régime, comme l'hétérosexualité est un régime politique, le célibat politique est un régime politique aussi, mais c'est pas un truc forcément qu'il faut appliquer toute sa vie, mais je dirais que c'est un truc à tester. Moi, le nombre de potes que j'ai qui n'ont jamais été célibataires depuis qu'elles ont 15 ans, elles sont en couple, mais je peux même pas les compter tellement elles sont nombreuses. Et c'est des grandes féministes, hein. Elles me donnent des grandes leçons pour supporter le célibat, parce que elles me disent, mais c'est trop bien que tu sois célibataire, et elles l'avouent qu'elles n'arrivent pas à être célibataires, et elles me soutiennent à fond, mais elles n'ont jamais été célibataires. Et dès qu'elles... Ça veut pas dire qu'elles sont avec la même personne depuis 10 ans. C'est que dès qu'elles interrompent une relation ou que l'autre interrompt la relation, elles trouvent quelqu'un d'autre. Et donc, elles, à l'inverse de moi, elles ont une faculté que j'avais avant, puisque je suis restée longtemps en couple aussi, à trouver un autre mec hyper rapidement. Et moi, j'ai une faculté à trouver des mecs qui ne peuvent pas s'engager, donc c'est très différent. Et en fait, le célibat politique ou le célibat tout court, c'est un truc à tester. Je pense que c'est comme voyager seul, c'est comme vivre seul. Je reviens toujours au podcast de Lorraine Bastide, elle demande tout le temps est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous, en référence à la chambre à soi théorisée par Virginia Woolf, donc un espace à soi. où on peut écrire, où on peut être seul, où on peut réfléchir, enfin voilà, tranquille, sans mec, sans enfant, sans personne. Et j'ai jamais eu une invitée, enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'invités qui ont répondu oh, oui, bien sûr, ma chambre à soi, c'est tous les jours, la majorité du temps, c'est hyper important pour moi. La majorité des meufs dans le podcast, elles répondent ouais, je galère, j'essaye, blablabla. Alors que moi, ma chambre à moi, c'est juste H24, quoi. J'imagine même pas si je devais partager ma chambre avec un mec ou avec qui que ce soit, mais je deviendrais complètement folle, en fait. Je ne pourrais jamais dormir dans le même lit que quelqu'un, ça m'est insupportable. Et si en plus, je peux pas travailler seule parce qu'il y a des gens qui me dérangent, qui sont là dans mes pattes, que ce soit des mecs, des meufs, des gamins, mais c'est pas possible. Et donc, le célibat, comme la chambre à soi, comme le non-travail, comme les vacances seules, enfin tout, c'est un truc à tester. Mais vraiment, c'est un truc que je recommande. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais parce que on peut pas avoir confiance en soi, on peut pas avoir vraiment confiance en soi, et on peut pas avoir vraiment conscience de soi en tant que meuf cisgenre si on sait pas être seule. C'est pas possible. Et dans la vie, il y a forcément un moment où on va se retrouver seul. Enfin, ça arrive que non, mais souvent, les mecs meurent avant nous, nous quittent avant qu'on les quitte. Enfin, il y a forcément un moment où tu vas te retrouver seul et où je vais me retrouver seul. Enfin, bref, n'importe qui. Où on va se retrouver seul et où on va souffrir de cette solitude. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de choisir la solitude avant de la subir. Et le célibat politique, c'est dire je choisis le célibat. Donc c'est hyper dur, je dis pas que c'est tous les jours le cas, mais c'est un truc de sortir de la honte et de dire au contraire, être seule, c'est une puissance, c'est un pouvoir. C'est dire en fait je n'ai pas besoin d'un mec pour exister. Et juste essayer le célibat, je sais pas, pendant 3 jours, enfin, et pas forcément besoin de passer des années, mais juste de sentir que bah le matin personne ne m'envoie de message pour me dire bonne journée, me souhaiter une bonne journée, le soir personne ne m'envoie de message pour me dire bonne nuit. En fait là si je disparais, personne ne s'en rend compte. Peut-être qu'on découvre mon cadavre dans 3-4 jours. Et encore, c'est même pas sûr, parce que mes amis, ma famille m'écrivent pas tous les jours, quoi. J'ai personne à qui penser, j'ai personne qui pense à moi, je veux dire toute la journée. Personne qui compte sur moi, moi je compte sur personne. Le célibat, c'est vraiment très dur pour une meuf quand on a été éduquée dans cette société, c'est vraiment très différent. Et c'est pour ça que j'ai aussi des potes célibataires et qui galèrent comme moi, qui sont forcément, pas toutes mais la plupart, à la recherche de quelque chose, de l'amour, de relations, de sexe, machin, parce que c'est hyper dur d'assumer d'être seule et d'assumer d'être bien seule et de... Je sais même pas si c'est possible, quoi. Et donc, ouais, ça demande vraiment beaucoup de courage. Et moi, franchement, les premiers temps, quand j'étais seule, je me suis devenue célibataire et que... Et je crois que le truc qui manque le plus, c'est vraiment ce message de bonne nuit le soir. C'est un truc qui était vraiment automatique avec mes mecs et que... Même maintenant que j'ai des relations épisodiques avec des mecs ou que je parle à mes potes tous les jours, ce message de bonne nuit, il n'est pas du tout là. Enfin, il est... ça arrive peut-être, je sais pas, une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines que quelqu'un me dit bonne nuit. Mais moi, je trouve que c'est hyper beau, enfin, d'avoir quelqu'un qui me souhaite bonne nuit. Je trouvais ça genre, oh, quelqu'un pense à moi. Et non, il n'y a plus ça, quoi.
Voilà, c'est la fin de l'enregistrement de cet épisode doudou, tout doux, sur un ferry finlandais. J'espère qu'il t'a plu. Je suis très contente d'inaugurer la saison 2 de Sologamy avec le célibat politique, avec ses réflexions féministe. Et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce que tu te définis comme célibataire politique ? Est-ce que ça te parle ou pas du tout ? J'attends tes retours. Tu peux m'écrire sur mes réseaux sociaux. Mon pseudo, c'est MarieAlbertFR sur Facebook, Twitter et Instagram. Si tu as aimé ce 15e épisode, ce premier épisode de la saison 2, que tu veux soutenir Sologamy, que tu veux soutenir cette nouvelle saison, je t'invite à mettre 5 étoiles le plus vite possible à ce podcast sur ton application de podcast, à le commenter sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Tu peux aussi le partager avec tes proches, participer à ma cagnotte en ligne. Pour soutenir mon travail, j'ai mis comme d'habitude le lien de cette cagnotte en ligne dans la description de cet épisode. Tu sais, aujourd'hui je touche le RSA, le revenu de solidarité active, qui s'élève à un peu moins de 600 euros par mois. Donc c'est plus important que jamais de contribuer à hauteur de tes moyens à la production de mes podcasts qui pour l'instant ne sont pas rémunérés. Avec cette cagnotte Tipeee, tu peux rémunérer mon travail. Merci beaucoup. Je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Sologamy avec cette fois un ou une invitée. Cette nouvelle saison, ça va être vraiment le feu, je te préviens. Je recevrai des personnes exceptionnelles ici chaque premier mardi du mois. Si tu veux soumettre un sujet original en lien avec le célibat, écris-moi. Je suis toujours à la recherche de bonnes idées. Voilà, j'ai plein d'idées, mais je ne suis pas universelle. Voilà, on va faire la révolution ensemble dans ce podcast. J'ai très hâte. Bisous.